Charles Pépin tout de suite sous le soleil de Platon jusqu'à 10h.
Je voudrais vous raconter l'histoire de la mémoire. Vous savez, de cette mémoire qui nous joue des tours et qui sans cesse nous donne des leçons d'humilité. Le passé revient quand il veut, pas quand moi je veux. Le passé heureux nous revient en pleine face et alors il nous semble qu'il ne reviendra plus. La nostalgie nous prend. Le passé malheureux nous revient en pleine face et alors il nous semble qu'il ne passera jamais, qu'il ne sera jamais précisément du passé. Dans les deux cas, c'est lui qui décide le passé, c'est lui qui se joue de nous. Et on nous dit de vivre au présent, ici et maintenant, de bien respirer en sentant l'air entrer et sortir de nos poumons. Que plus rien n'existe que le présent, foutaise comme on nous ment. Je me souviens du joli titre d'un livre de Bernie Bonvoisin. Vous êtes faite de peines étranges. Oui, nous sommes faits de peines étranges, de souvenirs douloureux dans la cour de récré, de souvenirs oubliés qui reviennent nous hanter, de tous ces oublis dont notre corps se souvient très bien. Je me souviens de cette phrase tellement belle de Bergson. Il n'y a pas de perception qui ne soit saturée de souvenirs. Le présent ne se donne que sur le lit du passé. Notre perception a une histoire, avec ses moments phares, ses moments de lumière, ses moments noirs. Je voudrais vous raconter l'histoire de la mémoire, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un homme qui a un rapport bizarre à la mémoire. D'un côté, des pans entiers de son passé ont disparu, semblant engloutis à jamais. Même sa mémoire récente lui fait parfois défaut. De l'autre, il a des souvenirs extrêmement précis d'événements survenus quand il avait 3 ans, 2 ans peut-être. Des souvenirs d'un âge dont normalement, nous ne nous souvenons pas. Est-ce qu'il va se laisser faire ? Se laisser chahuter par une mémoire qui n'en fait qu'à sa tête ? Par une mémoire qui n'en fait qu'à ses neurones ? Non, pas tout à fait. Il a des armes, cet être étrange, que nous n'avons pas. Avec son piano, sa guitare, sa mandoline, son accordéon, il sait faire revenir le passé, l'inviter dans le présent pour lui donner une vie nouvelle. Il aime les sons, leur tessiture, leur chair, leur épaisseur, leur bizarrerie. Mais le beau n'est-il pas toujours bizarre ? Il aime que ces sons ne sonnent pas trop naturels. Et il comprend que ces sons et ces images, plus encore peut-être que les odeurs et les goûts, ont le pouvoir de faire revenir le passé. Alors, il se met à chanter, à faire résonner le passé, notre passé peut-être aussi. Mais ce passé, le retrouve-t-il ou le réinvente-t-il ? Lui est-il fidèle ou le trahit-il ? Pour en parler ce matin, de ce passé qui jamais ne passe et de ce que l'art en fait, j'ai la joie de recevoir Florent Marché. Chanteur, auteur, compositeur, interprète, également écrivain, compositeur de musique de film. Florent Marché, dont le dernier album Garden Party est sorti il y a peu. Florent Marché qui nous a rejoint sous le soleil de Platon dans la caverne de France Inter pour nous aider à entendre cette belle question. Chante-t-on pour se souvenir ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Florent Marché.
Bonjour Charles.
Merci d'être avec nous ce matin.
Ben, c'est moi, merci de l'invitation.
Donc vous avez sorti cet album il n'y a pas très longtemps, Garden Party. Je crois que c'est votre 4e ou 5e album, après 8 ans d'absence. Mais on va en parler. Mais avant ça, je voudrais qu'on entre directement dans notre sujet. Est-ce qu'on chante pour se souvenir ?
Alors, qu'est-ce qu'on entend par chanter ? Est-ce que chanter ses propres chansons ou l'acte même le plus basique qui soit, qui est de chanter ? Pendant très longtemps, je pense qu'on a chanté pour se souvenir, parce que c'était la tradition orale qui permettait à des œuvres de perdurer. Je ne sais pas si je fais un travail de mémoire en chantant. J'essaye surtout, on parlait d'être au présent là, dans votre très beau texte, mais en fait chanter c'est être au présent avant tout, ça pourrait s'apparenter à de la méditation, alors que écrire c'est toujours revivre le passé, en tout cas essayer de collecter des fragments qui sont perdus dans les limbes de la mémoire.
D'ailleurs, vous avez écrit ce roman, Le Monde du Vivant, sorti en 2020. Donc, si je vous entends bien, il y aurait dans le roman plus une mémoire du passé, le fait de chercher à retrouver, et dans la musique, une pratique du présent.
Oui, oui. À partir du moment où c'est quelque chose qui engage complètement le corps, ça peut se faire qu'au présent. Après, est-ce qu'écrire, ça engage complètement le corps ? J'aurais envie de dire oui. de façon différente. C'est-à-dire que pour l'écriture de ce roman, par exemple, je me mettais à ma table d'écriture le matin. Je savais pas du tout ce que j'allais raconter. Ça m'arrangeait bien. J'avais envie de découvrir. Ouais. C'était ma façon peut-être d'être présent aussi. Il y avait pas de plan, il y avait pas. Et j'essayais de me rappeler ou de me souvenir. Tiens, j'aimerais bien connaître la différence entre les deux. Mais des lieux qui avaient été importants pour moi, que ce soit des lieux dans le Berry, dans mon village. Pas forcément des choses qui sont toujours réjouissantes ou qui font du bien d'ailleurs. Parfois, ce sont des choses douloureuses sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ma mélancolie, elle est parfois étrange. Je peux regarder, par exemple, un portail vert et être bouleversé. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un souvenir derrière tout ça, mais je le sais pas au moment où j'ai envie de m'intéresser à ce portail. Et donc, je peux commencer à écrire une scène devant ce portail et d'aller à la rencontre, en fait, d'un souvenir.
C'est marrant, ce que vous dites, c'est exactement la phrase de Bergson que j'évoquais au début. Elle veut dire ça. Quand Bergson nous dit « il n'y a pas de perception qui ne soit saturée, imprégnée de souvenirs », ça veut dire que quand bien même on croirait être au présent, ce que vous avez dit, je chante au présent, évidemment qu'on est au présent quand on est bien, quand on est traversé par la beauté de la nature, quand on a un désir sensuel, évidemment. Simplement, cette perception ayant une histoire, en fait, elle est imprégnée de souvenirs. Et donc, dans votre rêverie comme ça, devant ce portail, c'est sûr que le passé est convoqué. Et c'est sûr que le passé se fait présent en vous. Je vais essayer de répondre à votre question qui était marrante. Quelle est la différence entre se rappeler et se souvenir? D'ailleurs, je crois que c'est le sujet d'une belle chanson de Benjamin Biolay qui s'appelle « La mémoire ». Alors, de tête, c'est « J'ai tout oublié, mais je me souviens. Je ne m'en souviens plus, mais je me rappelle. » Et puis après, il y a d'autres choses comme ça. J'ai l'impression que se rappeler, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se rappelle à nous, qui vient du passé, qu'on peut d'ailleurs rappeler dans un mouvement de volonté, mais quelque part, qui presque a été, et qu'on va chercher dans le passé. Alors que ce souvenir, c'est quelque chose qui revient du passé, mais on ne sait pas si ça a eu lieu, si c'est réécrit rétroactivement, si c'est fictionnel. Et finalement, les travaux les plus récents des neurosciences nous montrent qu'en vérité, entre ce souvenir de ce qui a été et l'imaginer, on ne peut pas faire la part des choses.
Non, c'est compliqué. On sait que la mémoire, je crois, la plus ancienne, chez un être humain, c'est la mémoire olfactive.
Ouais.
Donc, pour ça, on va être ému par moment, on va sentir une odeur, ça va nous faire du bien. Et ça se trouve, c'est une odeur qu'on a adorée quand on avait 2 mois.
Et d'ailleurs, si on s'intéresse par analogie à nos obsessions sexuelles, pourquoi on est attiré? On voit bien, on est attiré par des choses qui reviennent. Pour certaines personnes, c'est un type d'épaule, pour certaines personnes, c'est un type de hanche, un type de sein. Et en fait, il y a une explication à ça qui serait que dans les premières années de la vie, la libido s'est fixée sur les premières formes de l'environnement et qu'on cherche toute sa vie à les retrouver. Mais quand même, quand vous dites chanter, c'est de la méditation, et que vous faites référence à cette délicatesse, à cet art du présent, en fait, on s'aperçoit que c'est pas exactement ça. En fait, le passé est beaucoup plus présent qu'on ne le pense.
Le passé, il est, on en est imprégné constamment. Je n'ai pas de métaphore par rapport à ça, parce que les métaphores sont souvent bien utiles. Mais prenons l'exemple de la cuisine. Et je sais pas, ça va être très élégant, mais on pourrait dire que le passé, c'est un fond de sauce qui est constamment là, en fait, et puis qui imprègne plus ou moins selon ce qu'on rajoute, mais quand même qui laisse son empreinte en permanence. Et on ne regarde jamais les choses, les gens, les odeurs avec un regard, une perception neuve, en fait. C'est impossible.
J'aime bien votre métaphore. C'est-à-dire qu'on peut avoir des ingrédients nouveaux, on peut faire des plats nouveaux, on peut révolutionner sa manière de cuisiner, on a toujours le même fond de sauce. Et c'est pas mal, hein. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme un milieu, en fait, dans lequel on a grandi, quoi.
C'est ça, et on peut pas s'en détacher. Quand on parle souvent des transfuges de classe, c'est ce qui se passe, ouais. En fait. C'est toujours plus ou moins de la boue sous les souliers.
Mais pour autant, si on essaye de si on se souvient de ce que vous avez confessé, que vous aviez des troubles de la mémoire importants, au point que vous avez consulté des spécialistes et même passé des IRM, il y a 2 lectures. Soit une lecture, on va dire, freudienne, c'est du refoulement, Soit, aujourd'hui, on s'aperçoit que cette lecture, elle est un peu trop facile, un peu trop hâtive. Il y a d'autres explications, notamment les besoins de l'action. Ce que nous montre Bergson, c'est que pour agir, on est obligé d'enlever plein de choses, parce qu'on a trop de souvenirs. Et quand on fait des choses, quand on crée, quand on agit, au fond, il faut sélectionner dans la masse des souvenirs disponibles ceux qui sont simplement utiles. Alors, vous pensez que dans votre cas, c'est plutôt une explication freudienne. En fait, il y a eu des traumas, des choses que vous avez refoulées profondément, et ça a produit des blocs entiers d'occultation. Ou alors, finalement, cette explication freudienne ne vous plaît pas ?
Elle me plaît pas. Peu, parce que je suis quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à verbaliser et puis à sortir tout mon sac de, voilà, de névrose. J'ai pas tellement de soucis avec ça, au contraire. Après, je pense que parfois je suis encombré par des souvenirs qui ne sont pas d'une grande utilité auprès de mes congénères, socialement, je veux dire. Voilà. Je suis très très encombré par le mouvement d'une rivière, des arbres, des choses qui sont plus de l'ordre des sensations, en fait. Qui sont des choses qui, moi, me font du bien. Et puis, j'ai ma mémoire, elle a sélectionné des souvenirs qui pour moi m'apparaissent par moments ridicules. J'ai l'impression que ma mémoire, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre en fait qui dirige ma mémoire. Et je me dis, mais pourquoi, par exemple, ce broc qu'on apporte en fer, qu'on apporte à la cantine, ouais, comme ça, je le visualise énormément. Ça sert à rien d'avoir ça dans sa mémoire.
C'est beau ce que vous dites, mais pourquoi vous dites que ça n'intéresse pas les autres?
Parce que parfois c'est mieux de se rappeler de tel film qui est réalisé par tel réalisateur, ouais, avec tel tel comédien qui avait aussi joué dans telle pièce et tout.
Mais ces gens-là nous exaspèrent tous. Nous le nom ne revient pas. On cherche, on se sent complètement con. Ce film nous a marqué. On n'arrive même pas à se souvenir du titre, ni de l'acteur, ni du réalisateur, ni du film, de rien. Et pourtant ça nous a marqué. C'est ça qui est, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve.
Oui. Ben en fait, après, c'est ce que je retiens, par exemple, d'un livre, ça va être, c'est une atmosphère et c'est aussi comment moi j'ai été traversé physiquement par ce livre, ouais, en fait. Et ça, c'est très difficile de le décrire. Moi, je suis pas du tout, je suis incapable de faire une explication de texte. Le côté fiche de lecture peut m'ennuyer rapidement.
Mais vous savez, quand vous dites « je me souviens de ce ruisseau et c'est pas important, je me souviens de cet arbre, de ce pot en étain, en fer », en fait, peut-être que ce dont vous vous souvenez, c'est de ce que vous avez compris ce jour-là devant le ruisseau. C'est de ce que vous avez eu comme émotion ce jour-là, quand il y avait cet arbre-là. Et du coup, et on a découvert ça récemment, les progrès des neurosciences sont dingues au sujet de la mémoire, on a découvert un truc qui semble un peu barbare, mais je mets ma casquette de prof 2 secondes, mais je vous rassure, chers auditeurs, dans 2 minutes, Florent Marché va chanter et je vais arrêter de jouer au prof de philo. Mais quand même, je vous le dis parce que c'est important. Ça s'appelle la spatialisation de la mémoire épisodique. Ça fait que 10 ans qu'on le sait. C'est-à-dire qu'on a compris qu'en fait, on se souvient des choses, des idées, même des émotions, des concepts, en rapport à l'espace et à ce qu'il y avait autour de nous. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous voulez apprendre un poème par cœur, ou si vous êtes étudiant, vous voulez apprendre un cours d'histoire, il faut marcher dans une rue ou dans un champ à la campagne, et les différents repères que vous voyez avec vos yeux, le ruisseau, le fleuve, sont les points de fixation de ce que vous comprenez des différentes étapes du poème ou du cours d'histoire. Du coup, quand vous dites « je me souviens du ruisseau », en fait, je pense que vous vous souvenez de votre émotion ce jour-là, ou alors même de ce que vous avez compris de la vie ce jour-là, et ça, c'est passionnant.
Oui, moi, je marche énormément, donc j'apprends également mes textes en marchant. C'est une façon. La ville est un peu pénible pour ça d'ailleurs, parce que c'est une immensité qui est enfermante. Ouais. Alors que se promener dans une forêt où j'ai appris par exemple tous les textes de mon album en faisant sur la plage, en fait.
C'est marrant. Vous savez que ça s'appelle, ça a un nom, cette méthode. C'est la méthode de Cicéron dans l'Antiquité, ça s'appelle l'art de la mémoire. Il disait, si vous voulez apprendre quelque chose, allez marcher et apprenez au fur et à mesure des étapes de votre marche, et c'est ça qui créera des points de fixation dans la mémoire. Donc vous êtes cicéronien dans cette façon d'apprendre votre texte. Alors, assez de théorie, je propose qu'on écoute maintenant en live, donc merci d'avoir accepté. Je précise que c'était pas prévu, on vous a demandé ça il y a une demi-heure, de jouer un extrait de votre dernier album, donc album qui s'appelle Garden Party, et cet extrait, c'est De justesse. Nous écoutons Florent Marché.
Un noyau de cerise, 4 ans la chaise haute, et les doigts dans la prise, juste avant qu'on les ôte. De justesse. 12 ans vif écorché, la rivière les Cévennes, sauter du grand rocher et s'en sortir indemne. De justesse. Promets-moi, mon amour, de passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. Les soirées du lycée, à faire plus que son âge, le pantalon baissé, fais-le où tu dégages en vitesse. Ne plus rien avaler et peser son mal-être, on allait se jeter, mais on ferme la fenêtre. De justesse. Promets-moi, mon amour, de passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. De rester vivant, j'y pense tout le temps. Tout le temps. Mojito, glace pilée, la bagnole qui va vite, ne rien faire à moitié et fêter ses 18. De justesse. C'est la nuit, c'est l'été, dans le ciel bleu pétrole, les platanes argentés, parfois on a du bol dans l'ivresse. Promets-moi, mon amour, passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. Promets-moi, mon amour, de passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. De rester vivant, j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps.
Merci beaucoup. C'était De justesse de Florent Marché, un extrait de votre dernier album qui est sorti il y a peu, Garden Party. Il est sorti le 10 juin. Je précise que Florent Marché, vous serez en concert le 23 septembre à l'Île de Ré, le 30 septembre à Saint-Quentin et à la Cigale à Paris le 2 février 2023. C'est très touchant ce que vous avez chanté, mais moi j'y crois pas, hein, cet enfant-là, il peut pas promettre de rester vivant. C'est pas possible, il a trop envie de vivre, il a trop envie de se faire de nouveaux souvenirs, vous lui demandez l'impossible.
Bien sûr que je lui demande l'impossible, je crois que je lui demande aussi de rester vivant, même quand il est en vie.
Ouais, oui, de rester vraiment vivant.
Rester, voilà.
Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Beaucoup de parents se reconnaîtront dans cette supplique, dans cette demande. On a dans cet album quelque chose de très frappant. C'est le travail sur les sons. Alors, vous avez attendu 8 ans depuis votre précédent album qui s'appelait Bambi Galaxy. Et là, donc je crois que vous avez composé surtout au piano. D'ailleurs, avec le piano de votre enfance, qui est un piano imparfait, justement, un piano qui vous rappelle quelque chose.
Oui, un vieux Schimmel qui est arrivé dans le salon de mes parents, j'avais 5 ans. Et alors j'ai vraiment ce souvenir de revenir de l'école maternelle, j'étais en grande section, et puis j'ouvre la porte machinalement du salon, je me dirigeais en général vers la platine vinyle, où on passait les disques, et là je vois qu'il y a un truc qui a changé dans le salon, il y a ce piano. Alors j'ai cru qu'on l'avait prêté à mes parents, C'est un peu parce que c'est vrai que moi je mets souvent en parallèle le chien et le piano parce que c'est deux choses dont je rêvais dans ma vie. J'ai d'abord eu le piano pendant des années et puis récemment un chien, mais parfois il y avait un chien à la maison, mais c'était toujours le chien d'un ami.
C'était pas votre chien.
On me disait ouais, il part dans une journée ou deux jours et bon, c'était pas mon chien. Et là on me dit non, si on l'a acheté, en fait c'est ton piano. Il se trouve que ce piano n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que il est extrêmement dur à jouer, un peu pénible, il n'a pas un son non plus fou. Mais j'y suis attaché parce que j'ai appris sur ce piano. Et pendant le confinement, j'ai eu besoin, comme beaucoup de gens, parce que la situation était peut-être un peu aussi anxiogène, de me retrouver chez moi, dans le salon, et de jouer principalement sur ce vieux piano. Et les chansons sont arrivées comme ça, ouais.
Et je crois que vous avez aussi beaucoup travaillé sur tous les sons, dans un second temps, avec cette idée d'avoir des sons un peu bizarres, des instruments un peu détournés, comme s'il fallait qu'aucun son ne soit naturel, on pourrait dire, alors que parallèlement, vous parlez beaucoup de la nature, comme d'un lieu où vous ressourcez, où vous trouvez le présent, mais pour les sons eux-mêmes, il fallait quelque chose d'un peu décalé, d'un peu différent.
Oui, mais enfin, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui est naturel en définitive? Parce que les chevaux ne voient pas la même chose que nous, le chien non plus, le chat, je sais plus, il y a certaines espèces qui voient en noir et blanc, d'autres, c'est un monde quasiment fractal, donc en définitive, moi je vais juste... écouter les sons de manière différente. Peut-être que j'écoute les sons comme le cheval les écoute.
Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien ce que vous dites. D'ailleurs, vous venez du Berry, je crois.
Oui.
Près du Loiret.
Au sud de Bourges.
C'est ça. Ouais. C'est pas la région de Michel Delpech?
Non.
Non, je comprends.
C'est un peu au-dessus. Là, c'est vraiment le centre de la France.
Ah, c'est le centre du centre. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est pas ça. C'est que, quand vous vous promenez dans la campagne et qu'il y a des sous-bois, au fond, vous devez le savoir, mais ce que ne savent pas les gens de la ville, c'est qu'en fait, aucun de ces tracés n'est naturel. La main de l'homme est partout. Quand on a un petit chemin qui longe un bois, en fait, il n'est pas naturel. Même dans la forêt, quand il y a un moment que ça s'éclaircit entre les arbres, plus rien n'est naturel. En fait, il y a un mélange. C'est complètement impossible de démêler nature et culture. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous cherchez dans le son.
Oui, on pourrait parler des rivières. La plupart des rivières sont des fausses rivières, ont été fabriquées, creusées. Oui, je cherche aussi à, comment dire, comme si derrière un son qui pourrait nous paraître naturel ou plutôt naturaliste, on pouvait enlever une première peau, une seconde, et puis d'avoir l'instrument de manière un peu plus brute aussi, parce que par exemple un piano, il a été conçu de telle sorte que on n'écoute pas trop les petits bruits de mécanique, qu'on puisse écouter surtout les belles harmoniques, et en définitive, si on commence à mettre des micros vraiment à l'intérieur des cordes, on va entendre des sons qui sont un peu inhabituels et qui pourtant font partie intégrante de l'instrument.
Mais du coup, il y a un travail au fond sur la percussion. Je vais vous faire une confidence, j'ai essayé d'expliquer aux auditeurs, c'est un peu compliqué, moi je suis en studio avec vous. Mais en fait, si j'enlève le casque, j'entends plus la musique, j'entends plus les harmonies, j'entends plus le piano, j'entends plus votre voix, j'entends que le bruit de vos doigts qui tapent sur le clavier. En fait, j'ai fait cette expérience pendant que vous jouiez, je vous ai quand même un peu écouté, et j'ai eu l'impression qu'une question était posée. C'est qu'au fond, ce qui fait la vérité de la musique, c'est d'abord la percussion ou c'est d'abord les harmonies et la mélodie?
Ah, c'est la percussion. Ça, c'est pour moi, c'est évident parce que c'est la respiration, le silence est une percussion, il n'y a pas de... De toute façon, à partir du moment où la musique, comme la vie, c'est un mouvement, c'est d'abord la percussion qui prédomine.
C'est ce que disait Nietzsche, hein. Il disait la vérité du monde, la vérité. Il disait on ne peut pas la regarder en face, on ne peut pas l'entendre en direct, mais au fond, la vérité c'est du rythme. Dionysos, c'est d'abord du rythme, il n'y a pas encore de mélodie, il n'y a pas encore d'harmonie, il n'y a que du rythme. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait de votre dernier album, une chanson dingue. Alors, elle dure 9 minutes, donc on ne peut pas l'écouter en entier. Moi, elle m'a complètement scotché. C'est toute une histoire, il y a une très longue narration, c'est profondément dark, désolé pour celles et ceux qui préparent leur sac de plage, mais c'est très beau. Je propose un extrait et puis après on en parle.
Parfois elle était gentille, elle venait s'asseoir sur le canapé, elle était maigre comme toi, alors elle me fixait, moi je n'aimais pas tellement ça. Elle nous parlait de sa jeunesse, ton père l'écoutait, il ne disait rien, il n'avait pas intérêt, je crois qu'il s'en foutait. Elle racontait toujours la même histoire, la rencontre dans un train avec un chanteur connu dans les années 80. Elle aurait pu le suivre pour de bon, si ma mémoire est bonne. C'était Yves Simon.
Alors dans ce morceau dingue, je sais pas combien de temps il dure, mais très très longtemps, 8 minutes ou...
Pas loin de 8 minutes.
Il y a toute une histoire qui raconte une amitié adolescente au lycée. Alors, je sais pas si c'est une histoire vraie, je devine que oui.
Oui,
voilà.
Oui.
Et donc c'est lié d'amitié avec un jeune garçon, et puis finalement sa mère est un peu folle, et puis à un moment ils disparaissent, et elle avait comme particularité d'être obsédée par Freddie Mercury, enfin par Yves Simon aussi comme on l'entend dans cet extrait, mais par Freddie Mercury. Elle était tatouée partout avec le visage de Freddie Mercury, etc. Et c'est très très émouvant, et puis un jour, il a disparu. Du jour au lendemain, après avoir été visiblement frappé par sa mère, qui balançait aussi la théière bouillante sur son père, et vous l'avez cherché, vous l'avez jamais retrouvé.
Oui, cette histoire était assez assez violente. On sait qu'on va tout d'un coup conserver un souvenir dans son musée aux souvenirs, parce que c'est ça la mémoire finalement. C'est un immense musée. On y met ce qu'on veut. On peut y mettre des réalisateurs de films, des acteurs, mais on peut aussi y mettre ce genre de souvenirs. Moi, c'est plutôt ce que j'ai tendance à faire. Et quand j'ai essayé de frapper justement la porte de l'immeuble où il y avait cet ami, il avait disparu. Et à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas de portable, et ça rendait les recherches plus compliquées. Voilà, donc j'ai un soir voulu convoquer, comment on dit, rappeler justement,
ouais, exactement.
Ce souvenir.
C'est aussi une forme de dommage, quoi, à ce qui a eu lieu. C'est une amitié très forte, comme souvent à l'adolescence. Vous écoutiez Lou Reed et je sais plus qui, et Ferré, je crois, sur le canapé.
Ferré et Scheller. Mais en fait, c'est ce qui fait la force aussi de l'adolescence, c'est vrai. Et ce qui est regrettable, c'est que très souvent, ça s'arrête, ou c'est un peu moins fort, ces partages de culture, de livres, de films, de morceaux. J'ai l'impression que quand on avance dans l'âge, chacun écoute des trucs dans son coin. Et moi, c'est une des choses qui me manque le plus. Heureusement, j'ai quand même quelques amis précieux avec qui je partage beaucoup ça, mais c'est important, ouais.
Je ne crois pas que cette période de la vie humaine est le moment où on peut tout résoudre. Je ne pense pas qu'on puisse, d'ailleurs, résoudre toutes les questions. L'esprit que nous avons nous donne simplement trois réponses, oui, non ou peut-être. Et d'habitude, ce n'est pas très satisfaisant, ce ne sont pas des réponses satisfaisantes pour des questions profondes. Alors, on est continuellement anxieux, on est anxieux à propos de tout. Nous sommes des créatures d'anxiété. C'est là qu'on nage, c'est notre habitat naturel. Il y en a quelques-uns d'entre nous qui sont très accomplis, qui émergent de ça. On essaye d'en faire partie, mais on a aussi la preuve que notre propre vie... qu'on peut aller quelque part, mais qu'on va pas se libérer de ce qu'on est. Alors, je ne crois pas que ce soit un endroit, la Terre, où on peut résoudre ces problèmes.
Vous avez peut-être reconnu la très belle voix de Leonard Cohen. L'anxiété, vous connaissez, vous avez écrit des chansons à ce sujet, notamment « Décaché », je pense à celle-là. Vous avez parlé de cette mélancolie de l'adolescence. Vous avez aussi parlé d'une enfance avec des moments durs à l'école, tout petit notamment, où vous étiez honteux, notamment, de savoir lire avant les autres. C'est fou la vie, parce que votre mère était institutrice, je crois.
Oui, et puis il se trouve que, je crois même avant 5 ans, je savais lire.
Ouais.
Et lorsque je suis arrivé au CP, j'ai fait semblant, pour être comme les autres, de savoir lire, ce qui était très pénible. Je faisais exprès de me tromper, je jouais à la comédie, quoi.
Vous faisiez semblant de ne pas savoir et d'apprendre avec les autres. Quoi.
Oui.
Et donc il fallait voilà, rentrer dans le rang, il fallait être comme les autres, il fallait se conformer. Et ce que dit Leonard Cohen, c'est que lui, il n'y croit pas qu'on puisse se libérer de l'anxiété dans cette vie-là. Moi, je suis un peu plus optimiste. Et vous ?
Je ne crois pas non plus. Je crois que c'est difficile d'évoluer... dans un monde actuel qui participe à des tas d'extermination, on est quand même une espèce, l'espèce humaine, qui est la seule capable de s'auto-exterminer. Et c'est quelque chose d'extrêmement effrayant, comme on n'arrive pas à à communiquer, comme on n'arrive pas. Je trouve que c'est difficile quand on me dit que je suis pessimiste. Je dis souvent que c'est pas moi, que c'est la vie qui a commencé, et c'est le monde qui nous entoure, qui est extrêmement violent. Donc après, on se doit évidemment auprès de ses proches de déconner un peu, de sourire, de parce que c'est une question de survie. Mais après, non, je comprends. C'est quand même c'est difficile de voir des films d'anticipation, de dystopie des années 70 et de se rendre compte qu'on est en train de commence à vivre un peu ce même scénario.
D'ailleurs, dans votre dernier album, enfin celui d'avant, 2013, Bambi Galaxy, il y avait ces thématiques catastrophistes, futuristes, vous aviez créé un personnage, vous aimez bien toujours les albums concept avec un personnage comme ça dont on suit les pérégrinations, et avec 8 ans de recul, vous pensez qu'il avait raison ce personnage ? Il était un peu catastrophiste, hein. Il voyait l'apocalypse arriver quand même.
Oui, mais alors, c'est étonnant, moi je suis fasciné, mais pas dans le bon sens du terme, par le comportement des humains, avec, on connaît aujourd'hui les chiffres du GIEC, où il y a, je crois, c'est 60% des vertébrés qui ont disparu en 40 ans. Enfin, c'est complètement dingue. On s'érige en haut de la pyramide, mais s'il n'y a plus personne en dessous, ça, faut savoir que ça s'écroule. Donc oui, je trouve ça un peu effrayant et j'ose penser qu'il y aura un sursaut des humains. J'en suis pas convaincu. Puis j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ce sera trop tard. Quand on a peur d'un début d'effondrement. Enfin, je pense qu'on est déjà dans le début d'effondrement.
Je précise quand même pour nos auditeurs que d'après le dernier rapport du GIEC, et notamment les propos de Jean Jouzel, il est encore temps. Hein. Eux-mêmes le disent, on peut quand même réagir si on en prend maintenant la mesure. Mais cette angoisse, on la sent dans tous vos textes. Ce que j'aime bien aussi, moi, c'est qu'on arrive très souvent sur un terrain un peu qu'on pourrait croire social. Voilà, je me rappelle de votre titre Courchevel. Là, dans votre dernier album, donc Garden Party, il est beaucoup question de vie pavillonnaire, un thème un peu welbeckien, beaucoup question de la classe moyenne. Mais en même temps, c'est quand même toujours l'intime qui l'emporte, toujours l'individuel. Finalement, vous êtes, j'ai l'impression, un peintre de l'intime déguisé en sociologue. Non, pardon, un sociologue déguisé en peintre de l'intime.
Est-ce qu'on peut faire de la sociologie avec des généralités ? Je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas faire de chansons avec des généralités. Ça, c'est sûr. Il faut aller à la rencontre des individus, aller à la rencontre des gens, les regarder tels qu'ils sont. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et je ne sais pas ce que c'est que la vérité dans l'écriture. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de vérité quand on regarde de manière trop large.
On va maintenant écouter un deuxième extrait de votre dernier album, En famille.
Jour de fête, Montargis, quelques heures un samedi, on aura beau chanter. On est aveugle et sourd, on avance à pas lourd sur un terrain miné. En famille, en famille. Comme c'était joué d'avance, ton frère a moins de chance, et puis chacun sa place. Dès la première bouteille, il fait rarement soleil. On s'embrasse, on s'agace. En famille. En famille. En famille. En famille. On se manque, on s'éloigne. On s'accuse, on s'empoigne. Au mieux, on fait semblant. Dans le train régional, on est bien matinal, on reste pas longtemps en famille. 40 ans les calmants et des heures de divan, se sentir écrasé. 18 ans sur le ring, cheveux bleus et piercing, on fait rien à moitié. De réveillons gâchés, jamais rien qui éclate.
parfois désobéir. J'ai quelque chose à vous dire. On est rouge écarlate en famille. Se chercher, s'adoucir pour ne pas devenir l'oncle qu'on détestait. Un soir ça vous rattrape, un mot qui vous échappe. On n'a jamais la paix en famille. En famille. En famille. En famille. Des gosses insupportables, comme ils se tiennent à table. J'aurais pas fait comme ça. Sous la véranda, le café un peu froid. On est rarement chez soi, en famille. Un matin, on est mal, téléphone hôpital. Et les épaules qui tremblent. On se serre dans les bras, oh merci d'être là. Dire qu'on est tous ensemble, en famille.
Soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Florent Marché, dont nous venons d'écouter En Famille. Florent Marché, vous serez, je le rappelle, le 23 septembre en concert à l'île de Ré, le 30 septembre à Saint-Quentin et à la Cigale le 2 février. On entend bien, je trouve, dans ce deuxième extrait, votre travail sur la percussion et sur les arrangements, sur les sons, c'est très beau. Et on entend aussi quand même une question sur la famille. On a l'impression que vous hésitez entre Gide, hein, famille, je vous hais, de la haine, et famille, je vous ai, haï.
Ben oui, parce que c'est les deux, on ne peut pas choisir. Moi, je me méfie beaucoup de ceux qui ont tranché sur la question.
Vous avez raison.
Non, mais c'est tour à tour, et puis c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est que la famille? Parce que c'est, quand on avance dans l'âge, c'est aussi bien toute la famille élective, et puis on voit bien avec toutes ces familles nucléaires aussi, il y a plein d'autres familles qui se créent. De plus en plus, on voit d'ailleurs ce phénomène de... d'amis de la famille qu'on va appeler tonton. Les enfants, ouais, vont appeler tonton. Ça, ça se faisait pas avant.
C'est vrai. Vous avez réussi à ne pas devenir ce tonton que vous détestiez ou pas?
Oh, j'essaye de détester justement le moins possible.
Ouais, c'est un beau programme de vie.
Ouais, je pense. En tout cas, de chasser toute radicalité. J'étais très longtemps obsédé par justement cette idée de vérité.
Vous dites que vous adorez Houellebecq, vous avez comme point commun, il y a beaucoup de différences, mais comme point commun avec lui, d'avoir dans votre viseur, comme objet de vos chansons, ces gens qui ont des vies normales, quoi, cette classe moyenne qui vit dans des pavillons. Mais justement, vous arrivez à moins détester que lui.
Ah oui, il n'y a pas de mépris. Il n'y a pas de mépris, et puis... ces histoires de vie qu'on dit petites, qu'ils ne sont pas forcément d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été important dans la première partie de mon existence, dans mon village. Et j'adore, par exemple, parler de rien pendant des heures.
Ouais.
C'est quelque chose qui fait partie du contact humain, c'est une autre forme de langage, comme les animaux qui se reniflent.
Il y a cette tendresse, hein, du regard dans vos chansons, qui est touchante et qui frôle parfois la dureté, mais sans jamais tomber dedans, justement. Je voudrais que maintenant qu'on s'intéresse plus à la question de la créativité, c'est-à-dire comment vous composez, comment ça vient, est-ce que ça vient d'une image, d'un son, d'un projet, d'une idée. Mais pour arriver sur ce terrain de l'émission, je voudrais lire un texte de Bergson, qui parle à la fois des souvenirs, de la mémoire, mais aussi, je crois, de la créativité. Alors je vous le lis, et puis après on en parle. Derrière les souvenirs, qui viennent se poser ainsi sur notre occupation présente et se révéler au moyen d'elle, Il y en a d'autres, des milliers et des milliers d'autres, en bas, au-dessous de la scène illuminée par la conscience. Oui, écrit donc Bergson, hein, je crois que notre vie passée est là, et que tout ce que nous n'avons perçu, pensé, voulu depuis le premier réveil de notre conscience persiste indéfiniment. Mais les souvenirs que ma mémoire conserve ainsi, dans ses plus obscures profondeurs, y sont à l'état de fantômes invisibles. Ils aspirent peut-être à la lumière. Ils n'essayent pourtant pas d'y remonter. Ils savent que c'est impossible et que moi, être vivant et agissant, j'ai autre chose à faire que de m'occuper d'eux. Mais supposez qu'à un moment donné, je me désintéresse de la situation présente, de l'action pressante. Supposez, en d'autres termes, que je m'endorme. Alors, ces souvenirs immobiles, sentant que je viens d'écarter l'obstacle, de soulever la trappe qui les maintenait dans le sous-sol de la conscience, se mettent en mouvement. Ils se lèvent. Ils s'agitent. Ils exécutent, dans la nuit de l'inconscient, une immense danse macabre. Et tous ensemble, ils courent à la porte qui vient de s'entrouvrir. Alors Florent Marché, je vous ai lu ce texte de Bergson, d'abord parce qu'il est beau. Bergson et Chopin, ça va pas mal ensemble. Hein. Merci Camille, réalisatrice de ce bel arrangement. Et parce que, évidemment, il parle pas de créativité au premier plan, il parle du rêve. Et il parle du fait que quand on arrête d'être dans l'action, dans l'utile, dans l'action pressante, dans l'efficacité, dans la productivité, et bien donc quand on s'endort, tout le passé revient de manière anarchique, de manière poétique, quoi. Et ça s'appelle l'oniris, ça s'appelle le rêve. Mais c'est pareil dans la créativité, au fond.
Je crois que je n'aime pas le mot imagination. Je suis pas persuadé qu'on imagine beaucoup de choses, en fait. On ouvre des trappes, effectivement, puis de temps en temps, il y a des fantômes qui sortent. Ça demande beaucoup d'abandon. J'ai tendance à comparer l'écriture de textes, de chansons à une partie de pêche où on peut rester devant l'eau pendant des heures, puis il va rien se passer. Puis tout d'un coup, par hasard, il y a un poisson qui va mordre et faut pas le rater. On va à la pêche au mot et puis il faut se laisser guider, se faire confiance. Et pourquoi il y a tel mot qui sort ou telle histoire, c'est ce que dit Bergson, c'est les fantômes.
Il faut savoir attendre.
Faut être très très patient, et je le suis pas, et je connais plein de gens qui ne le sont pas
non plus. Nous, on a attendu 8 ans entre votre dernier album et celui-là.
C'est vrai, mais j'ai fait d'autres choses, mais...
Oui, beaucoup de musique de film, d'ailleurs.
Oui, et puis j'ai appris à tailler des rosiers, donc c'était pas rien. Mais c'est vrai que on est dans un monde où les choses vont tellement vite, où on veut un résultat de manière immédiate, qu'on a du mal à être patient, être lent. Et moi, j'ai beau me répéter quand les phrases viennent pas, quand les fantômes n'arrivent pas, qu'il faudrait que je sorte et que j'aille faire un tour et que je marche. Je crois que c'est Jean-Louis Murat qui avait dit une phrase que je trouvais fabuleuse. Mais il avait dit sur certains textes qu'il n'aimait pas que ça puait la chaise.
Ouais, c'est ça. L'effort, la volonté, quoi.
Voilà.
Le fait de chercher la pression. Vous avez joliment parlé d'abandon et vous avez dit un truc très très fort. C'est qu'au fond, vous ne croyez pas beaucoup en l'imagination. Figurez-vous que tous ceux qui se sont penchés sur l'imagination disent comme vous, en fait. Hein. On n'imagine pas grand-chose, en vrai dire. Et c'est Descartes, le premier. On croit que Descartes est cartésien. En fait, Descartes est un génie beaucoup plus subtil. Et c'est le premier qui a dit, mais vous savez, en fait, on n'imagine jamais très loin. D'ailleurs, il y a un exercice qu'on peut faire souvent, que j'ai souvent l'habitude de faire avec mes élèves, c'est, ah ouais, vous croyez que vous avez une imagination de dingue. C'est le mec qui a fumé 2 joints, qui dit, moi, j'imagine un truc dingue. Alors tu dis, bah oui, t'imagines quoi? Bah, j'imagine François Hollande sur un éléphant rose. En fait, c'est rien. On connaît François Hollande, on connaît les éléphants roses, on a juste associé 2 éléments qui sont des éléments de la perception évidente. Et peut-être que vous avez raison, au fond, la créativité, donc ça m'amène à ma chanson quand même, à ma question, comment vous composez une chanson. La créativité, c'est plutôt de s'abandonner et d'ouvrir quelque chose et de laisser venir. Mais du coup, c'est aussi ce que dit Bergson dans ce très beau texte. Il y a un moment, il y a une porte qui s'ouvre, il faut juste arrêter de mettre la pression.
Faut l'accepter. Alors il y avait cette fameuse phrase, il peut y avoir des échos qui étaient ce que les autres te reprochent, cultive-le, oui. Mais en fait, c'est pas tellement ce que les autres te reprochent, ce que tu parfois tu n'oses pas montrer, cultive-le parce qu'en fait c'est vraiment toi aussi. Et c'est vrai que dans l'écriture, par rapport à mes débuts, d'écriture, de plus en plus, j'accepte que les trappes s'ouvrent et que certains mots jaillissent. Alors après, évidemment, je fais le tri si le mot sonne pas bien avec la mélodie, etc. Mais c'est surtout pas, il y a pas de démarche intellectuelle. Il y a pas de, c'est un lâcher prise. Le travail, il y en a. Le travail, c'est de, on peaufine le texte une fois qu'il est né, comme pour un roman ou pour un essai. Ou...
Bien sûr.
Mais on doit quand même à un moment donné s'abandonner complètement et faire confiance justement au limbe de la mémoire.
Ouais, et à ce qui revient de cette nuit du passé, vous disiez voilà ce qu'on te reproche, cultive-le, et puis vous aviez un peu décalé la phrase, c'est plutôt ce qui est ta singularité au fond. Toi en tant qu'elle vient du passé et se ramasse dans le présent. Je voudrais qu'on écoute un morceau de vous plus vieux, Courchevel, celui par lequel moi je vous avais à l'époque découvert, parce que je trouve qu'on entend très bien cette dialectique du social et du singulier justement, et j'ai beaucoup beaucoup aimé cette chanson.
C'était Noël, beau chalet à Courchevel, bien trop loin de nos fenêtres. J'imaginais sans connaître, dans tes poumons de crevettes, l'odeur de la piste verte et tes parents peu de nom dans les hôtels du néant. Quand tu passais tes étés, coquillages à l'île de Ré, si loin de nos soleils fades, j'imaginais tes balades. La plage qui se dessine et sous un pin parasol.
C'est beau, hein. C'était il y a plus de 12 ans. Vous arrivez, moi j'ai adoré depuis ce moment-là, mais vous arrivez, si vous faites le chemin, 12 ans, vous avez l'impression que vous abandonnez plus, que vous avez pu faire quelque chose de plus ouvert encore.
En fait, ce morceau-ci, c'était les prémices du nouvel album.
Le grand psychanalyste Viktor Frankl, vous savez, qui a rescapé de la Shoah et qui a tenu bon en camp de concentration parce qu'il avait un livre à écrire. Et dans ce livre, il avait une idée à défendre. Et cette idée, c'est que ce qui permet de vivre, c'est de sortir de l'illusion que le passé, c'est du passé. C'est ça sa thèse. Il dit, au fond, si vous croyez que le passé, c'est du passé, vous en sortirez jamais. J'ai l'impression que vous chantez ça, en fait. C'est ça que vous chantez. Que le passé, c'est du présent, quoi.
Ben oui, puisque notre manière d'agir, de regarder le monde, de s'adresser aux autres est totalement conditionnée par le passé. À l'échelle de la planète, l'existence humaine, c'est quand même pas grand-chose. Donc nous, on a l'impression de contrôler le temps. Mais la frontière est ténue entre le passé, le présent et le futur.
Quand on a évoqué ce garçon auquel vous demandez dans la chanson de justesse, de vous promettre qu'il va faire attention, qu'il va faire moins le con que nous on l'a fait à son âge, qu'il va conduire moins vite, qu'il va moins boire avant de prendre le volant, etc. On se disait, mais c'est pas possible, quoi. Il a envie de vivre, en fait. Et d'être vraiment vivant, c'est aussi prendre ce risque. Et... vous savez, ce qu'on a découvert récemment, c'est que par rapport à des souvenirs douloureux, il est impossible de les effacer dans la mémoire. C'est impossible. On peut pas. Il y avait ce film de Michel Gondry, là, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où il y avait cette agence qui efface les souvenirs, etc. Mais ça n'est pas possible. En revanche, on peut les recouvrir par des nouveaux souvenirs heureux. Et c'est pour ça qu'on se fait des nouveaux souvenirs, et finalement c'est ça qui nous relance dans l'existence. Est-ce que finalement une chanson c'est pas ça ? C'est-à-dire que ça vient du passé, et finalement ça relance dans l'existence, et ça nous fait un nouveau souvenir, parce que finalement le souvenir que j'ai en écoutant une chanson, ou en faisant une nouvelle chanson, c'est un souvenir nouveau.
Est-ce que les souvenirs, ce ne sont pas des moments où on était véritablement au présent, en définitive des moments où on a vraiment vécu. J'ai cette impression-là, parce que... Bon, après, je pourrais m'interroger sur le fait que, par exemple, les lieux de concert, où je vais jouer depuis des années, j'ai pas toujours la mémoire de ces lieux-là. Et en général, quand je me souviens de la loge, du hall, de la salle, c'est que ça s'est mal passé. Alors, c'est pas de bol pour les organisateurs adorables qui m'ont invité, parce que, en général, je retiens beaucoup plus les mauvais souvenirs, mais peut-être parce que les mauvais souvenirs, les moments où ça se passe mal, mais de manière un peu... Il se passe quelque chose de physique qui est très ancré dans le présent, on est vraiment vivant ouais, à ce moment-là.
Vous avez raison, et ça nous conduit à la conclusion de l'émission. Vous avez tout à fait raison, Florent Marché. Merci de nous avoir accompagnés sur le Soleil de Platon. Et je vais vous dire pourquoi vous avez raison en dressant in fine le portrait de votre philosophie. Parce que, en effet, ce qui marque la mémoire, c'est l'affect au présent. Donc c'est quand on a été très présent, quand on a perçu de manière intense l'instant, que ça vient, grâce à cette qualité d'attention, se fixer dans la mémoire. Ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est qu'en effet, quand c'est négatif, ça marque plus que quand c'est positif, pour plein de raisons. Donc votre philosophie, elle est celle d'un homme qui sait que nous sommes faits de mémoire avec un S, de plusieurs mémoires. C'est une philosophie, on l'a bien entendu, de l'abandon, et non pas comme ça du volontarisme. Et puis évidemment, c'est étrange, on ne s'y attendait pas, une philosophie cartésienne, mais pas au sens du Descartes que vous connaissez, au sens où Descartes lui-même, étonnamment, nous a appris qu'on n'imaginait jamais très loin. Alors en effet, ainsi que vous nous y invitez, Florent Marché, mieux vaut s'ouvrir, mieux vaut accueillir, mieux vaut s'abandonner. Merci beaucoup Florent Marché.
Merci.
Cette émission a été préparée par Vera Louderi et Fabrice Rivaud. Elle a été réalisée par Camille Maty. À la programmation musicale, Valentine Chaudebois. À la technique, Félix Delacour. À demain matin.